Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la science, une science fondamentale et sa pratique. Du moins, tentons de l'observer sous un angle différent avec l'ouvrage du docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte. Il est spécialiste. Sa discipline médicale clinique étudie l'ensemble des maladies du système nerveux et en particulier celles du cerveau. Il est neurologue. Son nouvel ouvrage qui s'intitule « L'interprétation des maladies » aux éditions Le Jardin des Livres, un livre qui présente des cas pratiques, une nouvelle approche de la médecine et du malade qui, dans la très grande majorité des cas, est devenu souffrant à cause d'un conflit de séparation, de territoire ou de non-dit. Pour en savoir plus, tout de suite, le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte nous accorde un entretien par téléphone. Docteur Thomas Lamotte, un peu plus de 160 maladies sont abordées dans ce nouvel ouvrage. Vous allez nous éclairer dans cette vision, cette approche que vous avez sur toutes ces pathologies référencées. Allons droit au but. Qu'est-ce que le mal a dit ? Il en dit des choses, n'est-ce pas ?
Oui, effectivement, ce n'est pas la vision médicale habituelle, mais en fait, quand on a compris la clé symbolique des maladies, on a tout compris. C'est-à-dire que l'homme n'aime pas vivre des choses et se sentir dévalorisé, se sentir culpabilisé, et il a donc besoin, lorsque ses stratégies de relations sont en défaut, lorsqu'il réveille des mauvais souvenirs, de se trouver des alibis, et ce sont des alibis symboliques qui font qu'il n'a plus de culpabilité. Alors je donne tout de suite un exemple de quelqu'un qui devient aveugle comme Ray Charles après la noyade de son petit frère, effectivement. S'il devient aveugle, il ne peut plus avoir vu, mais malheureusement la maladie survient a posteriori, donc on a eu la souffrance et l'humiliation. Mais par contre, effectivement, si à partir du symptôme, on peut définir une trajectoire et revenir dans la vérité, c'est-à-dire raconter cette culpabilité que nous portons, qui fait que nous avons eu un symptôme, eh bien, nous avons la possibilité de guérir un très grand nombre de symptômes, pour ne pas dire tous.
Alors pour vous, cette traduction symbolique d'une douleur cachée, enfouie, des mauvais souvenirs qui se réveillent, des sentiments d'angoisse profonde, non verbalisés, qui s'expriment tout naturellement de manière inconsciente, là nous sommes pleinement dans la somatisation, n'est-ce pas ?
Absolument, mais les maladies psychiatriques procèdent exactement du même mécanisme. Je prends un exemple, si vous avez une personne qui est dans le scrupule, elle est dans le scrupule et elle dit toujours « c'est de ma faute si, c'est de ma faute si ». Et en fait, cette symptomatologie, lorsqu'on fait l'anamnèse, on va savoir trouver, quand on est formé à cette symbolique, deux événements. Le premier, c'est un événement donc qui va programmer les choses. Et dans l'histoire que je prends, c'est l'histoire d'une petite fille que sa grand-mère prend dans son lit quand son mari arrive ivre à la maison pour ne pas être embêté. Hein, et elle lui dit « couche-toi là ». Couche-toi là. Et voilà. Et on va retrouver chez un guérisseur 10 ans, 20 ans, 30 ans après, une trentaine d'années au moins, où c'est le guérisseur qui dit à son chien pendant une séance « couche-toi là ». Et à ce moment-là, la femme réveille son souvenir avec la grand-mère et va tomber dans le scrupule, c'est-à-dire « c'est de ma faute ». Donc là où elle est obligée d'obéir à un ordre sans pouvoir discuter, elle passe à la responsabilité de tout ce qui se passe dans sa vie. Donc vous voyez que c'est bien, si elle est responsable de tout, elle est capable de dire non et de dire « je ne me couche pas là ». C'est assez surprenant, cette symbolique, ce langage symbolique, mais nous l'utilisons tous les jours à longueur de journée.
Docteur Thomas Lamotte, de mauvais souvenirs qui se réveillent déclencheraient certaines maladies. Le terme « mauvais souvenir », ça ne minimise pas un peu ? Pourquoi ne pas parler simplement de traumatisme, rester trop longtemps sans être réglé et qu'au fil du temps déclencherait une infection, une maladie ?
C'est l'enquête que l'on va mener qui montre que ça ne se passe pas comme ça. Et que si le traumatisme est raconté ou revécu même, vous avez des gens qui vivent des situations terribles, je pense à la situation de Nice par exemple, il y a 6 mois, vous allez revivre cette scène, mais ça ne va pas déclencher de pathologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de culpabilité particulière. Il n'y a que ceux chez lesquels une culpabilité est réveillée ou se met en route, parce qu'effectivement, ça peut être un policier qui se dit « mais j'aurais dû mettre tel mécanisme de défense pour la fournice ». S'il n'y a pas cette culpabilité, eh bien, il n'y a pas maladie. Et le problème, ça n'est pas donc les événements qui nous intéressent, mais le ressenti du malade et cette notion donc d'humiliation, de dévalorisation, enfin, de quelque chose qu'il n'a pas voulu dire à personne, qu'il n'a jamais dit à personne.
Alors, vous évoquez également dans cet ouvrage la transmission des angoisses, une grande culpabilité, peut-être transmissible à son entourage familial. Cela peut aller jusqu'où?
Ben, ça peut suivre au fil de toutes les générations. Hein. Moi, j'ai des exemples où je remonte 6 générations et on voit que le même problème est toujours en suspens.
Comment? Il est récurrent, quoi.
Il est récurrent sous forme de compensation symbolique. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père qui a eu honte d'avoir un enfant très tardivement, à 50 ans, quand sa femme est pratiquement ménopausée, le suivant va avoir un enfant à 50 ans pour le déculpabiliser, entre guillemets, en disant « mais c'est normal d'avoir une sexualité à 50 ans ». Et puis, à la troisième génération, ça va être le sens inverse. Ça va être, on fait un enfant avant le mariage, alors que c'est pas permis dans une famille bien et religieuse. Et à l'étape suivante, ça va être une fausse couche, mettons à 3 mois et demi. La fausse couche à 3 mois et demi, elle déculpabilise l'arrière-grand-père, puisque on ne sait pas que sa femme a été enceinte. Elle déculpabilise le grand-père, on ne sait pas qu'il a fait un enfant aussi tardivement. Elle déculpabilise la troisième génération, puisqu'il n'y a pas d'enfant prématuré avant le mariage. Vous voyez que c'est un mécanisme tout à fait... un engrenage, on va dire, un engrenage qui ne va s'arrêter qu'au moment où l'une des générations va... amener au clair la culpabilité et l'avouer. À ce moment-là, on décharge la famille de tout ce poids-là.
Et on stoppe justement cette transmission à partir de ce moment-là.
Voilà, mais si vous ne stoppez pas, ça va continuer sous d'autres formes, mais toujours dans le sens d'une déculpabilisation.
Alors justement, prenons le cas de la petite Émilie que vous évoquez dans le livre. La petite Émilie, elle a 8 ans. Oui. Elle va consulter un dentiste spécialisé en orthodontie. Pour une malposition.
Même pas, c'est un dentiste simple.
Ah, c'est un dentiste, d'accord, pour une malposition de ses dents. Et qu'est-ce qui se passe, en fait?
Eh bien, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle est accompagnée donc, de sa maman à cet âge-là, et que le dentiste, il prend son temps pour écouter la maman qui a eu à se plaindre. Bon. Et comme il écoute pendant 10 minutes, un quart d'heure, les plaintes de la maman par rapport à cette petite fille qui a un sale caractère, qui a des très mauvais rapports avec sa maman et qui, la maman est complètement impuissante à la faire changer. Et le dentiste va proposer simplement de mettre un petit instrument entre les dents pour que la petite fille ne serre pas les dents pendant la nuit, en disant ben, « on va revoir ça plus tard, essayez déjà comme ça ». Et alors, ce qui se passe 4 semaines plus tard, c'est que la maman, au réveil, voit que sa petite-fille a complètement changé de caractère, elle est aimable, elle est capable de lui sourire, d'être serviable, alors que c'est le contraire de son comportement au vent. Et surprise, quand sa fille sourit, effectivement, elle s'aperçoit que les dents sont revenues en place. Le sourire, disons, de cette petite fille est redevenu éclatant. Alors pourquoi 4 semaines, ça n'est pas un délai des lois biologiques de la maladie, hein? C'est parce que pendant 4 semaines, il a fallu que les alvéoles osseuses se ramollissent pour permettre ce passage des dents et le retour à un articulé dentaire tout à fait normal. Mais c'est quand même étonnant que ce soit les confidences de la maman, entendues par la petite fille, qui remettent les choses en place, qui font disparaître le symptôme. C'est la culpabilité de la maman qui va décharger donc la fille de son symptôme. c'est absolument étonnant. Et ça, on le voit très, très, très souvent avec les petits-enfants. Il suffit que la maman raconte sa culpabilité pour qu'un enfant se remette à dormir, pour qu'il n'ait plus de dyslexie, pour qu'il n'ait plus un comportement très dérangeant dans la famille.
Et donc, de ce fait, vous invitez à la méditation dans les chaumières, dans les facultés de médecine, dans les laboratoires scientifiques et pharmaceutiques. Vous invitez également la Sécurité sociale à cette méditation. Ne pensez-vous pas, docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, que vos détracteurs vont simplement qualifier votre approche, en l'occurrence dans le cas de la petite Émilie, comme étant une thérapie gadget?
Oui, ben bien sûr, mais bon, ils peuvent le dire. Ce sont des milliers et milliers de gens que j'ai guéris d'une douleur, d'une épilepsie, d'une dystonie, enfin de symptômes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'expérience et qu'ils critiquent a priori parce qu'ils sont cartésiens et qu'ils prétendent savoir ce qu'est une maladie. Mon expérience est telle, et je l'ai transmise à beaucoup de praticiens, pour savoir que c'est la bonne piste pour guérir les maladies.
Alors, pour vous, il est clair et net que les clés de la maladie se situent dans la vie psycho-affective du sujet. Les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer ou la parole est bloquée, vous leur conseillez quoi? Quel type de thérapie?
D'abord, je ne m'avoue pas vaincu, parce que quand quelqu'un venait me voir, puisque je suis à la retraite là, Souvent, je paraissais comme un médecin un peu particulier avec mes propositions. Mais lorsque le malade me dit « Docteur, d'où est-ce que ça vient ?» Je dis « Vous voulez vraiment le savoir ?» Et à ce moment-là, je vais m'amener avec une série d'exemples qui correspondent au cas du malade présent. Et il est très rare qu'au bout de 2-3 exemples, il ne commence pas à ruminer sa propre situation, qui est semblable sur le plan des événements et du ressenti, et qui ne finissent par se confier. Autrement, effectivement, je fais des démarches classiques d'écoute, et puis c'est sûr que le succès n'est pas assuré, la confidence de la personne n'est pas assurée, surtout avec certitude en rapport avec sa pathologie, parce qu'il n'y a qu'un aveu particulier qui correspond à un symptôme particulier.
Ben justement, comment apprendre à interpréter ce que ce mal a dit? Existe-t-il une technique? Peut-on s'aventurer individuellement dans son coin à chercher l'interprétation? Il faut être accompagné
C'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est-à-dire que on m'a jamais appris que le pouce de la main représentait la mère, et la mère sous sa forme d'encouragement, sous sa forme de protection, et que le gros orteil était la maman. Et on voit bien que l'enfant qui a des difficultés qui sont liées à l'angoisse de sa maman va aller sucer son pouce ou même sucer son gros orteil. Donc ça, c'est uniquement l'expérience qui me démontre que tel endroit du corps a telle valeur symbolique. Et donc, par exemple, si j'écoute quelqu'un qui a une douleur sur le côté de la cuisse, que ce soit à droite ou à gauche, en général, je vais trouver ce que j'attends, c'est-à-dire un problème avec un chien, parce qu'il y a un contact avec un chien, puisque c'est le chien qui vient poser sa tête et son cou sur le côté de la cuisse personne est assise. Et donc, je vais trouver un chien écrasé, je vais trouver un chien dont il a fallu se séparer, etc., etc. Mais dans ces pathologies-là, je n'ai toujours trouvé qu'une histoire de chien, si je la cherchais avec opiniâtreté. Alors effectivement, il faut absolument l'opiniâtreté, parce que est-ce qu'il y a eu une histoire de chien, et puis on tourne la page, on va jamais la trouver. Moi, je n'arrêterai que lorsque je vais trouver un lien avec cette histoire de chien.
Vous citez également dans ce nouvel ouvrage, vous prenez l'exemple par exemple des apnées du sommeil. Alors là, c'est au niveau de l'interprétation, c'est vaste après.
Oui, bien sûr. On a quand même le langage populaire qui nous parle, qui nous dit les liens à la maman. Bon, lorsqu'on est couché, effectivement, on est allongé, c'est l'attitude donc entre guillemets, féminine, alors que le Père qui est en haut, qui est dans les cieux, c'est quelque chose, une notion qui est dans le langage populaire et qui nous donne tout de suite l'orientation, la logique maternelle ou paternelle d'un saint homme, par exemple. Mmh. Donc c'est dans le langage populaire que j'ai puisé la plupart des ressources de cette symbolique. Mmh.
Alors, vous dites également qu'un bon nombre de pathologies graves, certains cancers, certaines infections, des accidents vasculaires, se déclenchent au moment où la vie d'un sujet s'améliore et devient satisfaisante. Comment s'y retrouver, du coup ?
Oui, alors, effectivement, c'est une notion qui est absolument révoltante. Vous êtes en train de réussir votre carrière de musicien.
D'ailleurs, vous faites référence au docteur David Servan-Schreiber pour ce cas-là. Hein.
Oui, oui, bien sûr qu'il y a eu un succès énorme. Et qui...
Et qui a rechuté par la suite.
Voilà. Ouais, je peux vous donner un exemple un peu plus similaire. C'est un monsieur qui n'a jamais voulu... ses parents n'ont jamais voulu qu'il fasse de la musique alors qu'il est bon musicien, tout jeune. Mmh. Et donc, il va devenir... faire une carrière d'architecte. Mais il continue toujours à faire de la musique. Et après sa retraite, il se met à... monter un opéra dans une ville étrangère et en tant que chef d'orchestre, mmh. Il a un succès énorme, mmh. auquel il s'attendait pas, et quelques mois plus tard, il va déclencher une tumeur cérébrale parce que effectivement, il a ce succès. Donc quelque part, il fait provision avec la prolifération de ses cellules. Mmh. Et malheureusement, ses parents avaient raison en lui disant quand il était tout jeune, tu ne pourras pas vivre avec la musique. Vous voyez qu'on est vraiment dans des engrenages absolument insupportables sur le plan affectif, intellectuel, cartésien.
Et puis ça montre la puissance de la suggestion.
Je ne mettrai pas la suggestion là-dessous. Hein. Je dis simplement... que la vie des parents coïncide avec ce qu'il arrive avec le monsieur. Parce que je pense effectivement que nous sommes tous reliés comme des petits engrenages, des montres où vous avez des petites dents, et chaque petite dent entraîne une petite dent, mais sur de nombreux axes. Eh bien, je pense que tout se passe dans notre vie humaine comme ça, avec de nombreux axes, avec des personnes à distance, hein, puisque nous émettons des signaux électriques avec notre cerveau, et nous pouvons communiquer donc avec tous les inconscients, toutes les personnes de la planète.
Mmh. Oui, parce que les inconscients communiquent.
Voilà, absolument. Mmh. Ils communiquent aussi bien d'ailleurs avec les animaux. Mmh. Un animal qui vous mord ne vous mord pas n'importe où, je dirais, quelque part. Mmh.
Vous distinguez bien deux choses, docteur Thomas Lamothe, la guérison et soigner un patient. Quelle est la différence ?
Soigner un patient, c'est ce que fait la médecine classique. Donc, on lutte contre le symptôme. Donc, on a des anti-allergiques, des antibiotiques, etc. Tandis que la guérison, c'est effectivement, si la culpabilité qui correspond au symptôme a été complètement retrouvée par la personne, par le malade, et qu'elle est donnée ou pas, parce que l'aveu peut se faire intérieurement, simplement, j'ai pas besoin d'entendre la culpabilité du malade, mais si ça correspond exactement, là, le processus de maladie s'arrête à ce moment-là. Mmh.
Toute pathologie demande un protocole de soins. Pour vous, une maladie, ça s'écoute, ça s'interprète. Comment trouver le médecin, le professionnel de santé, apte à ce type de travail d'accompagnement ?
Bien, effectivement, je pense qu'on n'est pas tous faits, les médecins ne sont pas tous faits pour écouter les malades. Mmh. Mais par contre, il est bien certain que la démarche que moi j'utilise, elle nécessite avant l'écoute du malade, elle nécessite un bilan médical complet, parce que c'est à partir de la liste des symptômes que on va pouvoir avoir une idée de... par la symbolique de la souffrance qui est restée masquée chez la personne. Donc, il y a toujours ce premier temps médical classique qui est absolument indispensable. Et ensuite, effectivement, c'est des médecins, mais également des psychothérapeutes ou simplement des personnes qui ont beaucoup souffert dans leur jeunesse et qui veulent se former à cette écoute peuvent faire le rôle de confident, donc d'écouter cette confidence qui va libérer le malade.
Docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, merci.
Je vous remercie. Bonne journée.
Après son ouvrage intitulé « Et si la maladie n'était pas un hasard » sorti en 2008, le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte publie la suite de ses travaux résultant de ses 40 années d'expérience en tant que médecin des hôpitaux et neurologue. Il prouve dans ce nouvel ouvrage que notre inconscient régule aussi nos maladies, blessures et accidents selon des schémas dont il expose les logiques, et cela afin de compenser des non-dits, selon le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte. Un ouvrage qui illustre parfaitement le sans rendre malade de la langue française. Je vous dis à très vite. Bye bye.